déterminée à parvenir directement à un accord de paix et à discuter de garanties de sécurité. Nous serons à New York dès le début de ce journal. De l'autre côté de l'Atlantique, les Européens s'organisent. Une réunion de la coalition des volontaires aura lieu demain. Ultime tentative pour peser sur les discussions en cours. Des pluies torrentielles et des glissements de terrain meurtriers. Les Pakistanais n'en finissent plus de compter leurs morts face aux moussons, inhabituellement intenses cette saison. En France, des véhicules qui ralentissent de manière intempestive. Les freinages fantômes inquiètent le ministère des Transports. Enfin, quand une palme d'or livre ses secrets à des jeunes cinéastes, le réalisateur japonais Kore-eda dans des salles de classe pour transmettre son savoir. Reportage à Tokyo à la fin de ce journal. Volodymyr Zelensky de retour lundi sur le sol américain. Le président ukrainien convié par Donald Trump pour une réunion à Washington quelques mois après leur première rencontre. On s'en souvient, extrêmement tendue dans le bureau ovale. Après le sommet Trump-Poutine en Alaska qui n'a débouché sur aucune annonce, le président américain semble désormais avoir épousé les positions de Vladimir Poutine sur le règlement du conflit en Ukraine. Nous retrouvons à New York notre correspondant Loïc Loury. Bonsoir.
Bonsoir.
Donald Trump ne veut pas d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais plaide désormais pour un accord de paix directement.
Oui, absolument. Donald Trump s'était posé en Alaska avec l'idée d'arracher un accord de cessez-le-feu, mais Vladimir Poutine l'a visiblement convaincu de l'inverse. La meilleure façon de mettre fin à la guerre, écrit le milliardaire, c'est d'aller directement à un accord de paix. La nuance est importante. L'Ukraine et les Européens, eux, poussent pour un cessez-le-feu préalable, tout le contraire des Russes qui réclament un accord de paix général consacré, selon l'expression du Kremlin, aux causes profondes de la guerre et qui comprendrait des annexions de territoire. C'est cela que Vladimir Poutine a mis dans la tête de Donald Trump, qui désormais tente de vendre l'idée à des Européens pas franchement ravis. Tout cela pendant que Moscou gagne du temps et pousse son avantage sur le terrain.
Et au menu des discussions lundi, Washington propose à Kiev des garanties de sécurité inspirées de celles de l'OTAN.
Oui, inspiré de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, le fameux principe de défense mutuelle, l'Ukraine n'obtiendrait pas d'adhésion à l'OTAN, à Moscou et Washington y sont opposés, mais les Américains leur offriraient donc des garanties de sécurité en cas de future agression. Donald Trump a proposé l'idée à Kiev et aux Européens selon une source diplomatique, sans que l'on connaisse vraiment les contours d'un tel dispositif. Vladimir Poutine, en effet, y serait favorable. Or, on n'imagine pas le président russe dire oui à un mécanisme aussi proche de ce que propose l'OTAN, perçu par Moscou comme une menace existentielle. Tout cela sera donc discuté lundi entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui a bien du courage de revenir à Washington.
Loïc Loury, correspondant de France Culture à New York. De son côté, de retour en Russie, Vladimir Poutine a pris la parole ce soir. Sa rencontre avec Trump était opportune et très utile, juge le président russe. Dans ce contexte, l'Europe cherche toujours une place à la table des négociations. Ce matin, plusieurs dirigeants européens se sont entretenus au téléphone avec Donald Trump pour un compte-rendu du sommet en Alaska à laquelle il n'était pas convié. En réponse, Emmanuel Macron a annoncé qu'il co-présidera demain une réunion en visioconférence aux côtés de la coalition des volontaires, les pays alliés de l'Ukraine, des discussions avec le Premier ministre britannique Keir Starmer notamment et le chancelier allemand Olaf Scholz. À Bruxelles, les précisions de notre correspondant Jean-Jacques Herry.
Dès demain, 15h, aura lieu une première réunion, celle de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, c'est-à-dire une quinzaine de pays qui souhaitent continuer à fournir une aide à Kiev, européens pour la plupart, ainsi que l'OTAN et l'Union européenne. L'idée pour les alliés sera de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine. Il devrait y être notamment question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ensuite, c'est à Washington que tout se passera. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit y rencontrer Donald Trump, une rencontre à laquelle les dirigeants européens ont également été conviés, sans que l'on sache encore qui y assistera et pourquoi. Car depuis janvier dernier, c'est toujours la même question. Quel poids pour des Européens et une Union européenne écartée des négociations? Si les alliés européens continuent de s'efforcer de montrer un front uni en ménageant le président américain et en saluant son action pour parvenir à la paix, dès ce matin, néanmoins, Emmanuel Macron a rappelé la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements, alors que dans le même temps, la volte-face d'un Donald Trump toujours aussi versatile, lui qui ne prône plus à un cessez-le-feu immédiat, mais bien de trouver directement un accord de paix, apparaît comme une large concession faite à Moscou, dont c'était le souhait.
Jean-Jacques Herry. En Syrie, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Soueida, une ville située dans le sud de la Syrie, pour dénoncer les violences intercommunautaires du mois dernier. Elles ont fait environ 1600 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les manifestants réclament l'autodétermination de cette province à majorité druze. Le bilan des moissons s'alourdit au Pakistan. Au moins 320 personnes sont mortes ces dernières 48 heures en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur tout le pays. La région la plus touchée est celle située à la frontière avec l'Afghanistan. Ce nouveau bilan porte à plus de 600 le nombre de victimes des moussons depuis la fin du mois de juin. Des moussons qui sont courantes dans cette partie du continent asiatique chaque été, mais ces dernières années, le phénomène devient de plus en plus violent, symptôme et conséquence à la fois du réchauffement climatique. Sur place, les secours tentent toujours de retrouver les corps ensevelis. Les précisions d'Ajra Mohamed.
2000 secouristes sont mobilisés au Pakistan, essentiellement dans le nord-est du pays et la province de Khyber Pakhtunkhwa, la plus touchée. Dans le district de Bunair, par exemple, 17 membres d'une même famille qui vivaient dans la même maison sont morts. Un voisin raconte aux journalistes de la chaîne Jio News.
J'allais travailler et sur la route, j'ai vu une coulée noire me foncer dessus. Elle dévalait à toute vitesse et montait au-dessus des arbres. Des gens au loin me faisaient signe et me criaient « Sauve-toi, sauve-toi !» Alors j'ai fait demi-tour. Il y a au moins une centaine de maisons qui ont totalement disparu.
Et dans les villages les plus reculés, en pleine zone montagneuse où toutes les routes sont coupées, les rescapés désespèrent en attendant les secours.
Jusqu'à présent, on n'a vu aucun secours. On n'a plus rien, même plus d'eau à boire. Je n'ai jamais vu des inondations pareilles.
Le Pakistan est l'un des pays au monde les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Ces moussons sont la preuve, rappelle le climatologue François Gémen.
Il est certain que la fonte des glaciers et des contreforts de l'Himalaya va créer des phénomènes de crue. C'est ça qui fait que le Pakistan est très régulièrement touché par des inondations parce qu'il est à la fois vulnérable au risque de mousson, mais aussi au risque de crue liée à la fonte des glaciers de l'Himalaya.
Au Pakistan, les autorités craignent de voir le bilan s'alourdir alors que les pluies doivent s'intensifier encore ces deux prochaines semaines.
Ajra Mohamed, les avions d'Air Canada cloués au sol, 700 vols suspendus aujourd'hui et 130 000 passagers concernés par ces perturbations, conséquence d'une grève des hôtesses et stewards. Les salariés de la compagnie aérienne réclament des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Enfin, le Quai d'Orsay réagit ce soir à l'arrestation au Mali d'un Français soupçonné par la junte militaire d'espionnage pour le compte des services de renseignement français. Des accusations sans fondement, assure le ministère français des Affaires étrangères. Un dialogue est en cours avec les autorités maliennes afin de dissiper tout malentendu et obtenir la libération sans délai de ce membre de l'ambassade de France à Bamako, a précisé le ministère. C'est une nomination qui avait choqué les associations de victimes de l'Église. L'archevêque de Toulouse revient sur sa décision de promouvoir un prêtre condamné pour viol sur mineur. Il a demandé aux prêtres concernés de renoncer à ce poste, ce qu'il a accepté. Une décision qui survient après l'indignation de nombreux collectifs de victimes suivis par celle de plusieurs membres de l'Église française. Bonsoir Estelle Kammerer.
Bonsoir.
L'affaire a débuté au mois de juin.
Lorsque Dominique Spina est nommé comme chancelier du diocèse de Toulouse, le prêtre avait été condamné en 2006 pour le viol d'un lycéen de 16 ans en 1993. Avec cette décision, l'archevêque Guy de Quirimel dit avoir pris le parti de la miséricorde, considérant n'avoir rien à reprocher à l'abbé Spina depuis 30 ans. Le rôle de chancelier n'impliquait pas de contact avec des mineurs, mais très vite, la conférence des évêques de France réagit et les fidèles se mobilisent. Aujourd'hui, le porte-parole des victimes de Bétharram, Alain Esquer, se réjouit, mais s'interroge sur les difficiles changements au sein de l'Église.
Comment un archevêque peut encore nommer à des postes de ce type des prêtres violeurs ? Enfin, l'abbé Spina n'aurait pas dû accepter cette nomination. Il aurait dû, s'il avait été digne, demander déjà pardon à sa victime et se retirer de lui-même. Là, on voit bien que c'est une démission qui est demandée par l'archevêque, et sous la pression d'ailleurs des évêques de France.
Hier, l'évêque d'Angers est également revenu sur la promotion d'un prêtre condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2017. Une décision qui avait fait vivement réagir. Pour Alain Esquer, cette pression médiatique est essentielle, sans quoi l'Église risque de répéter ses erreurs.
Je pense que ça va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'on le voit à Angers, on le voit là, à Toulouse. On va réfléchir à deux fois aujourd'hui. On voit bien que la société n'accepte plus ça. C'est tant mieux pour chacun d'entre nous. Et c'est tant mieux d'abord aussi pour les prêtres.
Le porte-parole des victimes de Bétaram insiste sur le besoin de restaurer la confiance entre les fidèles et les prêtres, notamment en ne nommant tout simplement plus les prêtres condamnés.
Les précisions d'Estelle Caméraire. Les pharmacies sont restées fermées aujourd'hui pour un mouvement social d'ampleur très suivi. 9 officines sur 10 ont baissé le rideau pour protester contre la décision du gouvernement de réduire le plafond des remises sur les médicaments génériques. Une baisse importante, jugent les syndicats, qui menace l'existence d'une pharmacie sur 3 et fait peser, selon eux, un risque sur l'emploi. Une aide au déplacement pour les aides à domicile annoncée aujourd'hui par le ministère chargé de l'autonomie et du handicap. Un fonds de soutien à la mobilité va être débloqué, 75 millions d'euros pour 2025, en direction des départements. L'objectif est de les inciter à mettre en place des solutions de déplacement pour les professionnels de l'aide à domicile. Ces derniers se déplacent en grande majorité avec leur véhicule personnel et peuvent rouler en moyenne jusqu'à 200 km par semaine. Un fonds qui n'est pas à la hauteur des enjeux, a réagi dans la foulée de l'annonce l'Union nationale de l'aide des soins et services à domicile. L'alerte au freinage fantôme prend de l'ampleur. Le ministère des Transports va mener des évaluations auprès de plusieurs constructeurs automobiles après le signalement de plusieurs cas de freinage brusque sans raison apparente. Plusieurs marques seraient concernées par ces problèmes. L'affaire est prise très au sérieux. Ces derniers mois, plusieurs centaines de témoignages ont fait état de ces anomalies. C'est le cas notamment de Johanna, une automobiliste lanceuse d'alerte. Les explications de Sonia Gobry.
Imaginez que vous roulez sur l'autoroute à pleine vitesse et que tout à coup, votre voiture freine ou s'arrête brusquement, mais sans avoir appuyé sur la pédale de frein. C'est ce qui est donc arrivé à Johanna Perrache en avril dernier. La voiture derrière la sienne n'a pas pu éviter la collision, il y a eu des blessés. Mais après l'accident, l'expertise de son véhicule est refusée par la justice. Alors Johanna lance un appel à témoignages. Elle en a déjà reçu plus de 250.
Ça concerne différentes marques de véhicules. Ça va jusqu'à l'accident du petit accident parce que petite vitesse, aux gros accidents comme le mien ou pire que le mien parce que il y a des personnes qui sont décédées.
Johanna a eu un échange la semaine dernière avec le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs. Ce service qui dépend du ministère des Transports va lancer des évaluations et interroger des constructeurs automobiles. Mais pour des automobilistes victimes de ces freinages fantômes, le coupable est déjà trouvé dans une pétition lancée sur le site de l'Assemblée. Ils expliquent que le point commun entre tous ces incidents, c'est la présence d'un système d'aide à la conduite, notamment au freinage, sur les véhicules neufs ou récents.
À noter que ce service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs est celui qui a lancé et suivi les campagnes de rappel des airbags d'effectuer Takata en janvier dernier. Connaissez-vous les secrets de fabrication d'une palme d'or, une affaire de famille, tel père, tel fils, les bonnes étoiles ou encore l'innocence? Vous l'aurez sans doute deviné, le point commun entre tous ces films, un nom, un réalisateur, le japonais Hirokazu Koreeda. Ce soir, nous vous emmenons au Japon où cet été, le cinéaste a choisi d'animer plusieurs ateliers pour livrer ses techniques et sa passion du 7e art à la jeune génération. Notre correspondante Karine Ishimura l'a suivi à Tokyo. Reportage.
7 jours de cinéma en été, c'est le stage organisé par la municipalité de Tokyo auquel participent 28 enfants d'école primaire. Scénario, tournage, cadrage, prise de son, montage, il faut tout faire sous le regard avisé du réalisateur Hirokazu Koreeda.
Leur façon de voir les films sera différente après avoir ainsi expérimenté le travail de professionnels. Dans un monde où circulent tant d'images, nous, les professionnels, devons réfléchir à la façon d'éduquer le regard des enfants. C'est important pour nous de susciter leur intérêt sur le procédé de fabrication de films.
À ces enfants de l'ère numérique où une intelligence artificielle peut créer des vidéos instantanément, Koreeda veut démontrer l'intérêt de façonner un film de ses propres mains.
Parce que c'est réjouissant, même si on a des avis différents, qu'on se dispute, réaliser une œuvre tous ensemble, c'est réjouissant.
Koreeda s'inquiète aussi d'une crise des vocations dans un secteur qui ne paie pas bien et qui est peu soutenu malgré la réputation mondiale du cinéma japonais.
Cette inquiétude et mes activités sont liées. Je cherche toujours comment améliorer les conditions de tournage de mes films et des façons d'assainir le secteur.
Et il espère qu'en 7 jours, ses enfants découvriront la valeur du 7e art sur grand écran.
Karine Nishimura à Tokyo pour France Culture. Avant de refermer cette édition, un mot du temps pour demain. La vague de chaleur régresse mais se poursuit dans le sud. 36 départements resteront en vigilance orange canicule. Des vents de 50 à 70 km/h souffleront sur les côtes méditerranéennes. Côté ciel, journée très ensoleillée avec quelques grisailles dans le sud-ouest. Quant aux températures, elles seront fraîches le matin dans le nord de 13 à 18 degrés, 19 à 22 degrés dans le sud. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Martin Descloseaux, à la technique, Ludovic Auger.